Bonjour, c'est aujourd'hui le 31 octobre et c'est la fête de plusieurs saints, mais c'est aussi l'Halloween dont je vous ai parlé hier. C'est Halloween qui est une fête plus ou moins païenne, évidemment très païenne, et qui vient de la Toussaint, comme je vous ai expliqué hier. C'est une fête à laquelle se mêlent de plus en plus des sentiments, chez quelques personnes, à tout le moins, des sentiments un peu démoniaque, on dirait. Surtout aux États-Unis, n'est-ce pas? Quelques rares personnes ici voient aussi les occasions de laisser transparaître leur haine du christianisme, mais c'est plutôt rare ici. Du moins, je l'espère. On peut célébrer quand même avec nos enfants le fait qu'ils soient costumés, il ne faut pas y voir trop de mal. Mais j'espère que les parents chrétiens sauront leur parler des saints demain. Leur parler aussi des âmes qui sont au purgatoire le 2 novembre, alors que nous prions pour nos défunts, et que l'on sache enseigner à nos jeunes les vraies fêtes, la Toussaint, la fête des morts, mais aussi aujourd'hui, qu'on leur parle à l'occasion de certains saints. C'est ce que je vais faire avec vous. Nous avons des saints très intéressants aujourd'hui, comme toujours de toute façon. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je commence avec un jésuite qui est décédé en 1617 et qui s'appelle Saint Alphonse Rodriguez. Mais il y a deux Saint Alphonse Rodriguez jésuites. Et cette fois-ci, ce n'est pas le grand prédicateur, c'est le frère coadjuteur. Un simple frère, comme on dit, simple frère. Mais qu'est-ce qu'il y a à être un frère? C'est grand, c'est très beau. Et vous savez que j'ai déjà dit que j'avais visité et séjourné dans de nombreux monastères. J'ai peut-être fait une soixantaine de monastères dans ma vie. Et la plupart du temps, quand on parlait de sainteté, on mentionnait un frère, un humble frère, qui n'avait, pour ainsi dire, rien fait d'autre que son devoir d'État. C'est ça la sainteté dont on parlera demain à l'occasion de la Toussaint. La sainteté qui vient très simplement au cœur de la plupart des croyants sincères, des vrais saints, non pas les saints qui ont fait des miracles extraordinaires, qui ont eu des vies fantastiques. On est un peu écrasé devant ces saints dont je vous parle presque tous les jours, parce que au fond, la sainteté, c'est très simple. Alors nous avons aujourd'hui Saint Alphonse Rodriguez, coadjuteur de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, qui est né le 25 juillet 1533. Certains biographes avaient dit qu'il était né plutôt que en 1530, 31 ou 32, mais c'est faux. C'est bien 1533. Comme quoi, on peut vraiment vérifier, je vous le répète, les vies des saints dans les moindres détails, même quand il s'agit de saints d'il y a 1000 ans et plus. Celui-ci, c'est il y a presque 500 ans. Il est mort le 31 octobre 1617. 1617, je vous le rappelle, le moment de la naissance surtout, c'est le temps de la Renaissance et c'est le temps de la réforme, hein, de la lutte contre que l'Église devait mener contre les protestants qui brisaient l'Église. Et contre aussi, il y avait une espèce d'hégémonie espagnole, n'est-ce pas, un pouvoir espagnol très très grand. Il fallait essayer d'éviter ça. L'année 1533, d'ailleurs, l'année de la naissance de Saint Alphonse Rodriguez, a été marquée par la naissance de la fameuse reine Élisabeth Ière en Angleterre. Ça a été marqué aussi par une curieuse entrevue du roi François Ier, qui régnait au moment de la découverte du Canada en 1534, on sait ça quand on étudie l'histoire du Canada. Et François Ier avait rencontré à Marseille nul autre que le pape Clément VII. C'est aussi l'année où, dans toutes ces guerres terribles avec les Turcs et les musulmans, bien il y avait eu une ambassade turque en France qui est venue cette année-là. Parce que les musulmans essayaient de conquérir la chrétienté pour la transformer dans leur religion qu'ils considéraient évidemment de beaucoup supérieur à la religion chrétienne, particulièrement la religion catholique. Il faut bien se mettre dans l'esprit du temps. Ces gens-là faisaient ça pour Allah, pour Dieu. Mais ils avaient des sentiments guerriers qui nous dépassent, qui nous surprennent, qui nous étonnent. Mais ne nous en étonnons pas outre mesure. Nous sommes aussi coupables de certaines prises d'armes à certaines occasions. Calvin, à ce moment-là aussi en 1533, adhérait à la réforme. Jean Calvin, dont je vous parlerai un jour, c'est un grand réformateur protestant, le père des calvinistes, si on peut dire. Mais c'est un homme qui avait des aspects magnifiques. Il y a des écrits superbes chez Jean Calvin. J'ai ses écrits chez moi. Et évidemment que quand on est très catholique, comme je le suis, on peut avoir une espèce de répulsion. Mais c'est malsain d'avoir cette répulsion. Je crois qu'il faut avoir un cœur ouvert. Il faut savoir ouvrir ces livres-là et savoir les lire avec en maintenant toujours notre conviction de l'unicité de l'Église, l'unité parfaite de l'Église catholique. Mais il faut savoir tendre la main. Une main fraternelle à l'égard de ces grands protestants. C'est l'année aussi où Erasme, dont je compte vous parler, donnait son fameux De Amabili Concordia, qui c'est un très beau titre, de la concorde aimable, si vous voulez. Et Titien, lui, de son côté, le grand peintre, peignait le portrait de Charles Quint, qui était le grand chef espagnol de l'Europe, pour ainsi dire. Et Montaigne, dont je vous parlerai aussi, venait au monde cette année-là. C'est l'année encore où Pizarre, le fameux conquérant espagnol, prenait Cusco, la capitale des Incas au Pérou. Quel drame, hein? Quel drame. Et par contre, l'année de la mort de notre saint Alphonse Rodriguez, 517, eh bien, c'était l'année où le catholicisme était prohibé en Suède. C'était le luthéranisme absolu. Afin de garder l'unité du peuple. C'est afin d'éviter aussi les querelles. Les catholiques suédois étaient passés au luthéranisme, à la région de Martin Luther, dont un jour je compte vous parler aussi, Martin Luther, qui a de bons aspects malgré tout ce qu'on peut penser de Martin Luther. Et les Espagnols, eux, de leur côté, venaient d'être expulsés du Japon en 1617. C'est pour ça que je vous parle assez souvent des martyrs au Japon. Quantité de martyrs. Je vous ai déjà parlé aussi de ce fameux romancier catholique japonais, Suzuko Endo, qui a écrit de magnifiques livres sur les martyrs japonais et espagnols ou autres qui ont été tués durant cette persécution contre le catholicisme au Japon. Et puis, donc, notre Diego Rodriguez, c'est-à-dire son père, Diego Rodriguez et Maria Gomez, sont les parents de notre saint. Ils étaient à Ségovie, n'est-ce pas? Ils étaient, paraît-il, de bons chrétiens. Ségovie, bien, c'est en vieille Castille, hein, c'est au cœur de l'Espagne, de la grande Espagne, la Castille, quoi. Ségovie, bien, ça date de très longtemps, c'était construit, reconstruit par Rome. Ça a été aussi la capitale arabe, hein, à la fin du premier millénaire, quand les musulmans ont conquis une partie de l'Espagne. Hein. C'est pour ça que Ségovie était célèbre pour ce qu'on appelle son Alcazar, ce grand monument d'architecture musulmane. C'était réputé aussi pour des draps de laine, et les Rodriguez, les parents de Saint-Alphonse, bien, faisaient le commerce des tissus de laine. Et Alphonse, donc, est né dans une famille assez à l'aise. Il a étudié chez les Jésuites, dans la province de Madrid, à Alcalá. C'était un collège qui venait tout juste d'être fondé. Son père est mort, alors il a dû revenir à la maison, puis il a dû prendre la succession de son commerce. Il s'est marié vers 1560. Bien oui, notre saint d'aujourd'hui, je vous ai dit que c'était un frère convert jésuite, bien, il s'est déjà marié. Il a connu le mariage, oui. Alors, il aurait pu devenir un pieux bourgeois, quoi. Mais successivement et très dramatiquement, il perd sa fillette, car il avait une enfant, il perd sa femme, puis il perd sa fortune. On croirait l'histoire de Job. Vous avez déjà lu le livre de Job, hein? L'histoire de Job qui connaît pas ça. Alors ce Castillan vivait comme Job, mais Job lui avait gardé sa femme. Peut-être que ça, c'était peut-être pour lui une peine plus grande de l'avoir que de pas l'avoir, semble-t-il, quand on lit le livre de Job. Non pas que les femmes soient désagréables, mais celle-là, elle lui posait tellement d'objections, n'est-ce pas, quand on lit le livre de Job, qu'on se demande si Job n'aurait pas préféré le silence. Et alors, il restait son fils, qui avait 3 ans. Tout ce qui lui restait. Et puis, il a demandé à Dieu si Dieu voulait prendre son enfant. Étrange prière, de le prendre plutôt que de le laisser devenir un pécheur. C'est un peu, ça nous rappelle la reine Blanche de Castille, justement, reine de France, mère de Saint-Louis, qui disait qu'elle préférait que son fils meure plutôt que de commettre un seul péché mortel. On avait une telle haine du péché mortel à l'époque, c'est incroyable. Aujourd'hui, on ne parle, pour ainsi dire, plus de ça. Les gens encouragent presque leurs enfants à se diriger vers ces sentiers abominables-là. C'est un autre monde aujourd'hui. Et alors donc, 1 mois après cette étrange prière, son enfant est mort brusquement. On peut croire ou ne pas croire que ce soit Dieu qui soit venu le chercher. J'ai peine à croire que ce soit Dieu qui soit venu le chercher pour moi. C'est simplement que souvent les enfants mouraient à l'époque, Et son enfant est mort. Et alors Alphonse Rodriguez a repris ses études interrompues. Il avait 35 ans. C'était comme le fondateur des Jésuites, Ignace de Loyola, dont je vous ai parlé le 31 juillet, qui faisait des études à cet âge-là. Alors il a suivi des cours d'humanité, des cours de rhétorique, comme on disait autrefois, l'art oratoire, mais c'est aussi plus que ça, C'est des cours de langue à l'université de Valence. Valence est à la hauteur des Baléares, là, c'est près de la Méditerranée en tous les cas. Et puis il a étudié là de 1568 à 1570. Et pour le 6 janvier 1571, pour l'Épiphanie, il s'est présenté, en ce beau jour de l'Épiphanie, au noviciat des Jésuites de la province d'Aragon, toujours en Espagne, après avoir pensé à se faire ermite. Encore un autre qui songeait à se faire chartreux, à se faire ermite. C'est une tentation très forte quand on se convertit, quand on est encore assez jeune. Et on l'a admis comme frère coadjuteur, ou comme frère convert, si vous préférez, mais chez les Jésuites, on dit frère coadjuteur, ça veut dire un frère qui aide les prêtres à dans leur travail, mais vont faire surtout des travaux manuels, mais deviennent très, 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 très remarquables dans leurs travaux. Un jour, je vous parlerai de certains frères coadjuteurs jésuites. J'en ai chez moi des vies admirables. Ça dépasse tout entendement, Particulièrement un missionnaire en Afrique. Il faudrait que je vous raconte ça. C'est tellement beau. Et alors donc, notre frère coadjuteur est Saint-Alphonse Rodriguez, au mois d'août suivant, a été expédié dans l'île de Majorque. C'est la plus grande des îles des Baléares. Peut-être un peu l'envoyer sur le front. C'est pourquoi? Ça va peut-être vous surprendre, parce que l'archipel des Baléares, c'était comme un rempart. Mais c'est un peu éloigné de l'Espagne, et ça servait aux musulmans d'endroit où s'installer. Et en 1536, bien, il y avait des guetteurs à Majorque, sur des tours, qui regardaient et qui épiaient. Et en février 1561, beaucoup plus tard, l'île était presque bloquée. En 1574, on disait à Gênes, en Italie, que l'ingénieur Il Frattino, travaillait à la défense de Majorque. Et dans les papiers de Rodriguez, il est question de frères captifs à Alger. C'est-à-dire qu'il y avait eu des jésuites qui avaient été pris par les musulmans et amenés en Algérie. Et notre saint Alphonse Rodriguez a eu une vision. Il a vu dans son rêve, une flotte céleste qui allait vaincre l'islam et que les musulmans se convertiraient. Mais son rêve ne s'est pas réalisé, évidemment. Rodriguez devait passer le restant de sa vie dans ce pays, où il était toujours sur le qui-vive. Il a prononcé ses premiers vœux en 1973, et puis ses derniers vœux, 12 ans plus tard, en 1585. C'est sérieux, les Jésus, ça prend du temps avant de s'engager. Et au collège de Montesion, c'est situé ça à Palma, de Majorque, hein, c'est sur l'île de Majorque, il a rempli toutes sortes de tâches. D'ailleurs, alors qu'il n'avait pas fait ses derniers vœux, en 1579, il a été nommé portier, puis il l'a resté jusqu'à sa dernière maladie. Comme le frère André, quoi. Un portier obéissant, il l'a été. Un jour, ça c'est assez amusant, il y avait une représentation théâtrale au collège. Alors le recteur lui avait prescrit de ne pas ouvrir la porte du collège avant telle heure. Mais qui arrive? Le vice-roi, l'évêque, des seigneurs qui se présentent avant l'heure fixée. Ils sont entourés de toutes sortes de gens, la cour, etc. Ça fait beaucoup de monde, hein? Et puis, donc, les gens alertent le frère portier, notre saint Alphonse Rodriguez. Il n'ouvre pas, puisqu'il a reçu l'ordre de ne pas ouvrir. Enfin, le supérieur est averti. Il bondit, il vient à la porte, s'excuse, s'explique devant les seigneuries révérendissimes, comme on dit. Mais dans une autre version, on prétend que l'évêque est arrivé seul, puis il n'était pas invité. C'est pour ça qu'il n'avait pas ouvert à l'évêque. Mais le frère convert, donc, a été toujours extrêmement obéissant. Mais c'est une obéissance, me semble, exagérée. Il aurait pu laisser son poste et ouvrir la porte, il me semble, ou du moins aller chercher le supérieur. Enfin, il se croyait tenu de manger, d'ingurgiter tout ce qu'on lui servait. Par exemple, si on lui servait des œufs pourris, il se croyait obligé de les manger. Comme quoi les saints, souvent, nous semble un peu fou, hein? Nous semble ça n'a pas de sens. C'est pas nécessaire, je vous le répète, de poser des gestes pareils pour être un saint. Mais bon, notre saint d'aujourd'hui, il est comme ça. Et un jour, la communauté avait reçu de la viande avec des citrouilles atrocement amères. Personne n'a voulu en manger une deuxième bouchée, sauf Alphonse Rodriguez, qui finissait sa portion quand on a voulu intervenir. Et là, on lui a dit de cesser de gratter son assiette comme s'il voulait la manger. Miracle avec son couteau. Il a fallu lui expliquer que l'on avait entendu le contenu. Il fallait manger le contenu, pas le contenant. On le taquinait, quoi. On avait bien raison de le taquiner pour essayer de le faire réfléchir un peu, le pauvre homme. Il était peut-être pas encore un saint, c'est ça. Il était encore au début de sa démarche vers la sainteté. D'ailleurs, certaines de ces réflexions, tout de même, méritent d'être méditées. Je vous en donne quelques-unes qui sont très belles. Car il a laissé de nombreux écrits, hein? Bien qu'il était frère coadjuteur. Dieu ne nous a pas appelés à la vie religieuse et retirés du monde pour que nous ayons soin des choses qui concernent notre corps. Lui-même, notre Seigneur et notre Dieu, prend soin de notre corps, aussi bien que de notre âme. Il fournit à tous ses besoins par les supérieurs. J'aime mieux sa deuxième pensée. La route que l'âme doit suivre pour arriver à la sainteté est de se mortifier en s'aidant de l'oraison. Et c'est très vrai que quelqu'un qui se mortifie normalement, il ne s'agit pas d'exagérer, et qui fait vraiment ce qu'il a à faire de façon précise, et qui prie profondément, et qui recherche la contemplation de Dieu, qui recherche à écouter Dieu au fond de son cœur, est en voie vers la sainteté. C'est très simple, au fond. Saint Alphonse Rodriguez ajoute, « Les pas à faire sont les actes intérieurs du cœur par lesquels on se vainc, c'est-à-dire de faire ce qu'on doit faire. » Il aimait cette prière très simple et que je trouve très belle. « Jésus, Marie, mes très doux amours. » On dira, « Ben, c'est qu'étaine. » Non, 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 non. Je me souviens à Avon, chez les Carmes d'Avon, c'est au bout du parc du château de Fontainebleau. J'ai passé une semaine chez les Carmes il y a très longtemps, une dizaine d'années peut-être. Et j'étais seul à l'hôtellerie. Alors je mangeais seul. Et j'allais seul à la chapelle, j'étais toujours seul. Et un jour, il y avait une dame assez âgée dans le dernier banc. J'ouvre la porte de la chapelle et je l'entends qui murmure « Jésus, Marie, mon amour. Jésus, Marie, mon amour. » Et elle murmurait ça sans cesse. J'ai pas osé rentrer pour ne pas la déranger, mais je me suis contenté. Derrière les portes, je l'entendais quand même murmurer. Et j'étais très ému, car cette femme était probablement une sainte. C'était une grosse dame, d'à peu près 70 ans, 75 ans. Alors il disait, saint Alphonse Rodriguez, « Jésus, Marie, mes très doux amours, faites-moi la grâce de souffrir et de mourir pour votre amour. » Il ne cherchait pas la souffrance ou la mort en soi. Pour votre amour, pour votre amour, c'est la base. Il ajoutait, « Donnez-moi d'être tout à vous et nullement à moi. » Car quand on se donne complètement à Dieu, c'est là qu'on se libère totalement et qu'on s'appartient finalement vraiment parce qu'on est libre. Car ce qui est notre petit moi nous enchaîne, nos susceptibilités, nos petites colères, nos égoïsmes, nos petites larmes, nos petites angoisses, tous ces petits tourments qui nous affectent, c'est parce que notre petit moi est encore là. Et si notre petit moi est versé dans le cœur de Dieu, il est transformé, il est brûlé, il devient, à mon avis, tout autre, tout autre. Et on peut dire alors, comme je vous ai dit souvent, comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et c'est ça la sainteté, le bonheur. Saint Alphonse Rodriguez disait aussi, « Ah Seigneur, si je savais, si je pouvais le faire, je vous servirais comme toutes les créatures du ciel et de la terre ensemble. » C'est beau, ça a quelque chose d'un peu de Théard de Chardin, ça. Pour lui, d'ailleurs, la compagnie de Jésus, les Jésuites, c'était le soleil. Il trouvait que les autres ordres n'étaient que des étoiles. Hein? Il était fier d'être Jésuite. Il disait qu'il fallait imiter le grand capitaine, Jésus. C'est un frère coadjuteur. Hein? Puis il a le sens qu'il est dans un bateau, dans un grand bateau. Et le capitaine, c'est Jésus, c'est la société de Jésus, les Jésuites. Hein? Il déclarait d'ailleurs, c'est très beau. « La plus grande charité, c'est d'obéir à Dieu. » Le plus grand amour, quoi, c'est d'obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, ça ne veut pas dire tomber dans la platitude, c'est le contraire. C'est tomber dans le dépassement, c'est monter dans le dépassement. C'est grandir vraiment, à la fois dans l'humilité, parce qu'on reconnaît que c'est Dieu qui accomplit tout ça en nous, et c'est devenir profondément heureux. La plus grande charité, le plus grand amour, quoi, c'est d'obéir à Dieu. Les commandements de Dieu, c'est quoi? Les conseils de bonheur? Les conseils d'un père, d'un papa, Abba, comme dit Jésus. Hein? Abba, ça veut dire papa. Dieu est un père, un papa, qui nous donne des conseils. Et quand il dit « Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement », ce n'est pas un ordre. C'est un conseil total qui vient du cœur de Dieu et qui nous dit « Reconnais-moi comme ton Dieu, je t'ai fait et je t'aime, je t'ai fait par amour. Et si tu m'adores, c'est-à-dire si tu te jettes dans mes bras, tu seras heureux. Et moi donc, je serai rempli de cette joie du Père qui serre son enfant dans ses bras. » C'est ça le premier commandement de Dieu, et ainsi pour tous les autres. Si on les comprenait, les commandements de Dieu, on verrait que ce sont des grands conseils de bonheur. Saint Alphonse Rodriguez est mort en prononçant longuement, d'ailleurs, le nom de Jésus, en s'étendant sur son nom, Jésus. Jésus, Jésus, c'est-à-dire Jésus, et un ouus qui se traînait dans son dernier soupir. Dès 1618, l'année après sa mort, l'évêque de Palma de Majorque, la ville de Palma, a permis d'exposer au-dessus de sa tombe le portrait d'Alphonse Rodriguez, ce qui était une permission extraordinaire. On ne permettait pas ça à cette époque facilement. Il faut dire que les images et les portraits, c'était très rare. En 1633, donc une bonne quinzaine d'années plus tard, les Juras, c'est-à-dire, disons, les échevins de Majorque, de l'île de Majorque, ont mis Alphonse Rodriguez au rang des patrons du pays, un frère convert, encore que le culte officiel eût été interrompu en 1625, à cause des décrets d'Urbain VIII qui voulait éviter qu'on canonise trop rapidement ce saint. Le pape Léon XII l'a déclaré bienheureux en 1825, ça prend du temps, et c'est 200 ans plus tard. Et Léon XIII l'a canonisé en 1888, donc il y a une centaine d'années. Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre ce saint Alphonse Rodriguez avec le père Alphonse Rodriguez, 1526-1616, donc qui est mort presque la même année, jésuite aussi, auteur de ce fameux livre « Pratique de la perfection chrétienne », qui est un classique des autrefois, c'est un classique des noviciats religieuses, j'ai ça chez moi en plusieurs tomes, c'est très intéressant, mais c'est dans la perspective de cette époque. Et notre portier, notre saint Alphonse Rodriguez aujourd'hui, a laissé beaucoup de papiers. Plusieurs, comme je vous ai dit, ne sont que des copies de textes. Bon, c'est des textes connus. Le réditeur, qui s'appelle le Père Nonel, s'est trouvé souvent en face de fragments en désordre, un peu comme pour les pensées de Pascal, ou bien pour le Coran autrefois. C'est ce que disent du moins ceux qui ont étudié la rédaction du Coran. Et alors, hardiment, notre père qui a Nonel a tenté de former un corps de doctrine avec tout ça. Par exemple, sur les vertus, avec ces pages dont certaines faisaient double emploi. Alors, on est en présence d'un texte plutôt Rodriguez-Nonel, si on peut dire, des deux auteurs, sans qu'on sache vraiment là, toujours si l'ordre adopté correspond à la pensée de l'auteur. De toute façon, il n'est pas surprenant, en ces temps tout proches des origines de la Compagnie de Jésus, que la doctrine de notre saint soit très proche de la pensée de saint Ignace de Loyola. C'est fondé sur l'expérience ascétique et mystique. Cette âme de sacrifice et de prière qu'était Alphonse Rodriguez a reçu de Dieu les grâces d'une oraison élevée, et même de la prophétie et du miracle. Saint Alphonse Rodriguez a été favorisé de lumière et de vision et de paroles intérieures. Et Rodriguez et le frère Rodriguez disent être saint, c'est bien accomplir ses devoirs d'État par amour de Dieu. Tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et pensez-y en cette veille de la Toussaint. Être saint, c'est bien accomplir ses devoirs d'État, ce qu'on a à faire, quoi, par amour de Dieu. C'est tout, c'est pas compliqué. Il le disait déjà. Thérèse l'Enfant Jésus l'a popularisé à travers le monde entier. Toujours, le Christ doit être maître et modèle. Et Rodriguez excelle lorsqu'il parle de l'humilité, de l'amour des souffrances. Il invoquait chaque jour à peu près 2 douzaines de saints. C'est pas une mauvaise idée. Notons qu'après une période d'environ 10 années, où il a connu l'aisance et la facilité à prier, il a été éprouvé pendant 10 autres années. L'oraison commençait, son corps devenait douloureux, d'abord agenouillé, il devait choir par terre. Et là, il luttait comme il pouvait jusqu'à la fin de l'heure. Il se levait, déjà presque guéri. Au cours de la journée, Dieu le visitait avec des grâces qui semblaient récompenser sa persévérance. Il a agi surtout par l'exemple, et sa vertu le rendit célèbre jusqu'en Espagne. Pendant 3 ans, il a été le conseiller spirituel de Saint-Pierre Claver. Et de son vivant, mais ses écrits étaient copiés et cités. C'est un saint très attachant que ce saint Alphonse Rodriguez. Je veux vous parler maintenant du bienheureux Thomas de Florence, un franciscain. Il m'arrive souvent de vous parler des franciscains, tout à l'heure un jésuite, maintenant un franciscain, qui est mort en 1447. Il s'appelait... Vous savez que les franciscains, à l'époque, portaient le nom de la ville d'où ils venaient. C'est pour ça qu'on disait Thomas de Florence. Son vrai nom, c'était Thomas Bellaccio. Bell, B-E-2-L-A, puis C-I-O, Bellaccio. Il est né à Lunari, près de Florence, au moment où il y avait ce grand mouvement de réforme chez les franciscains, que l'on appelle le mouvement de l'observance, observer. Ça se répandait dans toute l'Italie. Il avait été élevé assez chrétiennement par sa mère, et ce jeune Thomas, devenu adolescent, s'est laissé aller à une vie assez désordonnée. Et un jour, à force de devenir de plus en plus délinquant, il a été accusé assez lourdement. Il a été profondément bouleversé de l'ingratitude d'un riche seigneur dont il avait favorisé, disons, pour cacher les choses, les desseins plus ou moins pervers. J'imagine qu'il avait dû coucher avec le seigneur qui devait être un homosexuel. Et il est rentré en lui-même, et là, la rencontre providentielle du directeur de la société qu'on appelait la Société Saint-Jérôme l'a ramené peu à peu à une vie chrétienne solide. Et bientôt, après, il a sollicité son admission. Justement chez les franciscains de l'observance, qu'on appelait les frères mineurs de l'observance. Mineurs, vous le rappelez, ça veut dire petits, les petits frères de l'observance. Comme on dit aujourd'hui, les petits frères de Foucault, ou les petits frères de Jésus. Et vers 1388, donc, Thomas Bellaccio inaugurait ses premiers pas dans la vie franciscaine, au petit ermitage de Fiesole, près de Florence. Et les souvenirs de sa vie passée ont déterminé notre saint Thomas à une vie de pénitence extraordinaire. En voilà un autre dont les austérités effrayantes se multiplient. Il veut expier par ce moyen-là ses fautes de jeunesse. Sachez bien que ce n'est pas nécessaire de faire une austérité épouvantable pour se faire pardonner de Dieu. Dieu est profondément miséricordieux. Et quand on se tourne vers lui et qu'on avoue ses fautes au sacrement de réconciliation, ce qu'on appelait autrefois le sacrement de pénitence, et qu'un prêtre nous donne l'absolution, nous sommes totalement pardonnés, pourvu qu'on ait vraiment le désir de changer de vie, hein. Même si on retombe après. La sainteté, c'est quoi? C'est de tomber, de se relever. Se relever, c'est le secret de la sainteté, se relever. Hein? Alors, il était pauvre, saint Thomas, dans ses vêtements. Il ne portait pas les plus beaux costumes franciscains. Il était ardent aussi, à se mépriser lui-même. C'est pas une mauvaise chose de se mépriser dans un sens, sans tomber dans l'excès. Là. Je crois qu'il faut savoir reconnaître ses propres faiblesses au fond de son cœur, et savoir qui nous sommes le plus possible, pour pas se prendre pour un autre. Il cherchait toujours à purifier sa conscience aussi, car il faut avoir une conscience droite, pour pas laisser fausser sa conscience et se dire « bah, c'est permis, tout le monde le fais-le donc. » On descend la côte et on se trouve avec soi-même et comme si Dieu était disparu. Il a pratiqué très rapidement, très jeune, des vertus, qui parle de vertus aujourd'hui, mais en tous les cas j'en parle, les vertus les plus intéressantes, les plus solides. Et on peut dire que Dieu le soutenait dans cette recherche de la pratique des vertus. Dieu l'a conduit à une haute contemplation. Et le soir, après un court moment de sommeil, d'ailleurs, saint Thomas de Florence se rendait à la chapelle plusieurs heures avant les matines. Je l'appelle saint, c'est un bienheureux. Et puis, il se rendait à la chapelle plusieurs heures avant les matines. Et comme le bon père Jean dont je vous ai parlé hier, qui était abbé d'Aigbel et qui se rendait dans la chapelle la nuit, comme je l'ai constaté moi-même plusieurs fois, il y demeurait là jusqu'au jour. Et c'est surtout dans la campagne, dans les bois, qu'il aimait à se retirer. Comme beaucoup d'entre nous, hein, quel plaisir on a à se promener à la campagne, dans les bois, et à réfléchir. Hein. Et c'est là qu'on sent la présence de Dieu dans cette nature. Hein. On la sent beaucoup plus fort que sur la rue Sainte-Catherine, je crois. Ses supérieurs ont favorisé l'attrait du bienheureux Thomas pour la solitude. Et alors, il a passé souvent 3 ou 4 jours seul avec Dieu. Comme on peut le faire aujourd'hui dans certains ermitages, vous savez que dans le Québec, il y a plusieurs endroits où on peut se retirer comme ça dans des communautés de toutes sortes, où ils ont des ermitages, c'est-à-dire une petite cabane grande comme une petite pièce, et dans laquelle on peut vivre pendant plusieurs jours. Et on va chercher son repas et on le mange dans la paix. Et c'est pas facile à faire, paraît-il, mais c'est très profitable. Parfois, on a aperçu notre bienheureux Thomas de Florence, comme Saint Joseph de Cupertino, ce saint dont la sainteté est tellement extraordinaire que ça dépasse tout entendement, mais on le voyait comme Saint Joseph de Cupertino, élevé jusqu'au sommet des grands arbres de la forêt, dit-on. Oui. Bien souvent, les religieux du couvent l'ont vu la nuit environné d'une lumière éclatante. Et quand on lit ça, on dit « c'est pas possible », mais pourtant les documents sont là. Bah, faut dire que ça s'est passé il y a 500 ans. Enfin, devant les preuves, car c'était des preuves pour eux, ils l'ont vu, c'était des preuves manifestes de la sainteté de notre bienheureux Thomas, mais le commissaire général des franciscains observants italiens lui a confié la charge de maître des novices. Et le bienheureux Thomas s'est acquitté parfaitement de cet emploi. Il était lui-même un exemple vivant. Il entraînait ses novices. Et sa renommée s'est étendue à tel point que beaucoup de franciscains conventuels sont passés à la réforme dite de l'observance, puis se sont mis à l'école de notre bienheureux Thomas. Et vers 1414, Jean de Stroncone ou Stroncone, se rendant dans le royaume de Naples pour y implanter l'observance franciscaine, a choisi entre autres compagnons notre frère Thomas. Il lui a confié le soin de diriger une province franciscaine en Calabre, dans le sud de l'Italie, comme je vous ai déjà dit. Alors, Thomas s'est occupé, durant plusieurs années, à fonder des couvents réformés. Les miracles qu'il opérait consolidaient son œuvre, évidemment. Ça intensifiait sa réputation de sainteté, et 6 années plus tard, notre bon père Thomas était de retour en Toscane pour travailler à une autre œuvre, la répression des hérétiques. Qui étaient ces hérétiques? C'étaient les fraticelles ou les fraticelles. C'était une communauté d'exagérés, d'exaltés, qui s'était développée, grâce surtout au désordre provoqué par le grand schisme à l'époque. Ça précédait les protestants. Ça. Et sur la demande du pape Martin V, Thomas a commencé à parcourir les régions de Sienne et de Piombino. Puis, il a installé plusieurs nouveaux couvents encore. Puis, au bout de 7 années d'efforts, il est parvenu à éliminer les fraticelles de cette partie de l'Italie. Alors, en récompense, sur l'intervention de Saint Bernardin de Sienne, qui était franciscain aussi, mais Thomas a été nommé par le pape Martin V commissaire provincial des nouveaux couvents qu'il avait fondés. Alors, il a érigé un noviciat au couvent de Scarlino, dont il a fait sa résidence habituelle, puis là, il a reçu d'innombrables recrues. Imaginez, il y a eu le bienheureux Ladislas, dont il faudra que je vous parle un jour, qui était un descendant des rois de Hongrie. Puis le bienheureux Polydore, qui venait de la fameuse famille romaine des Patrizi. Dans cette solitude de Scarlino, bien le frère Thomas a établi un usage. S'est maintenu très longtemps après sa mort, chaque nuit, après les matines, mais les religieux allaient en procession. Écoutez bien ça, en récitant les psaumes de la pénitence dans le bois voisin. Puis au rond-point, une espèce de rond-point, Alors chacun gagnait son petit oratoire de branchage. C'est une vieille coutume franciscaine, ça. Alors une nuit durant l'office, c'est sympathique, un loup est arrivé devant l'église et s'est mis à hurler. Alors d'autres loups se sont joints à lui. Là, le chant des matines en était troublé par les hurlements. Alors le bienheureux Thomas est sorti et quoi? Il s'est adressé à l'animal. Il a fait comme Saint François d'Assise avec le loup de Goubiot. Hein? Il lui a dit, « Tais-toi, je t'en prie, tais-toi. N'empêche pas les divines louanges. Tu es venu beaucoup trop tôt. » Alors le loup a obéi sur le champ. Puis là, la procession était à peine sortie de l'église que l'on vit apparaître autant de loups qu'il y avait de religieux. Et puis se sont joints à eux, et quand les frères mineurs, les franciscains, se sont séparés pour se rendre dans leur ermitage, chacun fut accompagné par un loup qui s'est couché à ses pieds, et qui est resté près de lui, et qui ne le quittait qu'à l'aurore, petit matin, et après avoir reçu sa bénédiction. Je trouve ça très amusant. Alors, dès lors, ce prodige recommençait chaque nuit, dit-on, de continuer bien après la mort de notre frère Thomas, le bienheureux Thomas de Florence. Et cependant, bien une nuit d'hiver, les religieux ont omis la procession habituelle, puis les loups ne sont jamais plus revenus. Quelle étrange légende! Lorsqu'en 1439, le pape Eugène IV a envoyé le frère Albert de Sartiane au titre de légat en Orient, c'est-à-dire en Égypte, etc., Ce frère Albert de Sartiano a demandé d'être accompagné par Thomas de Florence et par quelques autres. Alors là, les voyageurs ont gagné l'île de Rhodes. Puis de là, ils se sont embarqués pour Jérusalem, puis sont parvenus finalement au Caire, en Égypte évidemment, où le sultan musulman, là, leur a réservé un très bel accueil. Ces franciscains arrivaient en costume, puis ils ont parcouru l'Égypte, la Palestine, la Syrie. C'est un moment de paix entre l'islam et la chrétienté. Mais ils ont reçu la défense de pénétrer en Éthiopie. Alors, le frère Albert de Sartiano, qui menait le groupe, s'est rendu jusqu'en Perse avec l'intention, lui, de se diriger sur l'Éthiopie, et même les Indes. Mais il est tombé malade. Alors, il est obligé de rentrer en Italie, où il a mis le concile de Florence, il y avait un concile, le concile de Florence, au courant des résultats de son voyage. Puis a laissé notre frère, le bienheureux Thomas de Florence, continuer sa mission, lui. Alors, Thomas et ses quatre compagnons ont continué leur marche. Et oui, ils ont continué leur marche, imaginez. Alors, ils se sont rendus jusqu'à l'Éthiopie. Ils ont été faits prisonniers à deux reprises par les musulmans. Ils ont été jetés au fer. Et ils ont été libérés grâce à de riches marchands de Florence qui ont payé des sommes énormes. Ils parvenaient presque au terme de leur voyage quand, une troisième fois, ils ont été encore capturés. Et là, les musulmans ont voulu les faire apostasier. Tout fut mis en œuvre pour y parvenir, évidemment, mais ça servit à rien. Alors là, les franciscains sont demeurés inébranlables. Ils ont été battus de verges. On les a tenus enfermés dans ce qu'on appelle une citerne, c'est-à-dire un puits, si vous voulez, abandonné. Pendant 20 jours, ils n'ont eu presque rien à manger. Ils étaient très héroïques. Ça finit par toucher le cœur des musulmans. Et ces hommes qui confessaient leur foi avec autant d'héroïsme ont été conduits dans une prison de la ville. Et notre frère Thomas, le bienheureux Thomas de Florence, a eu l'autorisation de trouver de la nourriture pour ses frères. Il en a profité, imaginez, pour prêcher le Christ à la porte des mosquées, au péril de sa vie. Alors, les mauvais traitements, évidemment, ont fondu sur lui. Et puis, un jour, il est revenu à la prison tout meurtri. Ça ne l'a pas empêché d'être parfaitement dispos le lendemain matin. Les jours suivants, les prisonniers ont appris qu'ils étaient condamnés à mort. Mais de Rome, le pape Eugène IV ne les oubliait pas. Et le pape a envoyé le prix de leur rançon aux musulmans. À leur grand désappointement, nos prisonniers ont été mis en liberté. Ils ont repris le chemin de l'Italie découragée. Et là, l'administration à Rome, au Vatican, leur a fait une fête. Mais le bienheureux Thomas de Florence ne désirait vraiment, lui, qu'une seule chose. Il voulait retrouver sa solitude de Scarlino, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il ne fait qu'y passer, puisque on le retrouve presque tout de suite à Aquila, où il est venu vénérer le tombeau de Saint Bernardin de Sienne. Et vers 1445, il s'est rendu près de Saint-Jean de Capistran, dont je vous ai parlé l'autre jour, vicaire général des franciscains observants d'Italie. Puis il était envoyé dans les Abruzes, où on fabrique une liqueur que j'ai chez moi qui est très bonne, c'est un peu spécial, dans les Abruzes, là, au couvent de Montepiano. Puis notre frère, le bienheureux Thomas, il a passé les deux dernières années de sa vie dans la prière, puis la pénitence, évidemment. Il demeurait inconsolable de ne pas avoir été trouvé digne de verser son sang pour le Christ. Il a repris le chemin de Rome afin de solliciter du pape l'autorisation de retourner en Égypte. Mais il n'a pas dépassé Rieti, puis il a pris de fièvre. Il lui fallut s'aliter. Le 31 octobre 1447, il a rendu son âme à Dieu. Son culte a été approuvé par Clément XIV. Je vais terminer en vous parlant d'une sainte assez sympathique, mais qui a un nom curieux. Sainte Bigu. Quel nom! C'est une moniale du 7e siècle. On trouve ça dans l'histoire ecclésiastique de Saint Bède, Saint Bède le Vénérable. Et c'est une moniale, une sainte anglaise, oui, d'Angleterre, du Yorkshire. Elle était moniale à Hackness, c'est pas loin de Scarborough, dans le Yorkshire, comme je vous ai dit. Et puis, Saint Bède attribue à cette moniale une vision, assez analogue à celle que Saint Grégoire le Grand a prêtée à Saint Benoît, fondateur des Bénédictins. Ce sont des visions que l'on retrouve assez souvent, ça. Chez des saints. Une nuit où notre sainte Bigu, ou Bigu, je ne sais pas trop comment prononcer ça, pour prononcer ça à l'anglaise, elle reposait au dortoir. Elle a entendu sonner un glas. Alors elle a ouvert les yeux, croit-elle. Elle a vu le toit de la maison qui était enlevé. Il y avait une lumière qui s'épandait, là, tombait des hauteurs. Elle distingue l'âme de la mère Hilda, abbesse de Whitby, assez loin, un monastère assez éloigné vers le nord. Elle voit la mère Hilda qui est élevée au ciel avec des anges qui l'entourent et la précèdent. Alors notre sainte Bigu s'éveille. Elle constate autour d'elle que toutes les sœurs dorment. Alors elle conclut que ce qui lui est arrivé, ce qui lui est apparu en rêve, c'est peut-être vrai. Elle croit que c'est probablement une vision spirituelle. Elle se le demande. Elle a des doutes. Mais elle est inquiète car elle aimait bien cette mère Hilda. Alors elle court chez la supérieure de son monastère. Elle a les larmes aux yeux. Elle lui raconte le décès de la mère Hilda, puis la gloire dans laquelle elle l'a vue. Alors on réveille les sœurs et on prie sous condition pour Hilda, la mère Hilda. Au matin, il y a des moines qui arrivent au monastère des Moniales et ils viennent annoncer la mort de mère Hilda. Et on a trouvé tout à fait que la vision avait coïncidé, dit-on, avec le moment du trépas de Mère Hilda. C'est tout un accord, conclut Bède le Vénérable, entre le départ ici-bas, puis l'entrée en haut au ciel. J'ai une anecdote que je vous ai déjà racontée, qui est très étrange, où mon père étant allé dîner un soir chez Monsieur Albert Hudon à Outremont, un homme très riche. Ils étaient seuls à manger avec la sœur de Monsieur Hudon. Elle avait une sœur jumelle qui était missionnaire des sœurs de l'Immaculée Conception en Chine. Et pendant le repas, elle s'est sentie mal. Les larmes lui coulaient, puis elle s'est levée de table, elle a dit « il faut que je me retire ». Et elle s'est retirée dans sa chambre. Après le repas, M. Hudon, inquiet que sa sœur ne revienne pas, est allé la voir. Et elle lui a dit « j'ai le sentiment jusqu'au fond de mon cœur que notre sœur vient de mourir en Chine ». Eh bien, croyez-le, croyez-le pas, c'était vrai. Quelques semaines plus tard, c'était au début des années 30, hein, mon père a appris la mort de la sœur de M. Hudon, son ami, morte en Chine, sœur de l'Immaculée Conception. Étrange chose. Mademoiselle Hudon n'avait rien vu, mais l'a senti. C'est le sentiment des sœurs jumelles identiques. C'est très curieux, ce phénomène. Pour nous préparer, de toute façon, à la fête de la Toussaint demain, je voudrais vous lire l'évangile de demain. Allez à la messe demain. N'hésitez pas, faites un effort. C'est un très grand jour. Hein. En France, c'est congé. En France, on respecte la Toussaint. En France, on ne travaille pas le 1er novembre. Et voici l'évangile selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit. Et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Et il disait, « Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. »